première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
La nouvelle mouture du passage du témoin, donc c'est une réédition, donc ça il faut le savoir. C'est un livre qui est paru initialement il y a maintenant une vingtaine d'années déjà, qui était épuisé. Et c'est un livre donc qui est vraiment un projet très personnel. Qui tenait vraiment à cœur aux auteurs, qui sont d'une part André Goldberg, qui est photographe, enfin maintenant il fait aussi la vidéo, des films. À l'époque, il était concentré sur son métier de photographe et de portraitiste essentiellement, et Dominique Rosenberg, qui était sociologue, enfin voilà, une formation de sociologie. Et donc tous les deux, bon, forcément, dans la communauté juive, ont eu des proches, des parents. Qui ont connu le sort de millions d'autres juifs pendant la guerre, notamment voilà, le passage, la disparition dans les camps, les camps de concentration, les camps d'extermination. Et c'était en 1995 la célébration, si je ne me trompe pas, c'était le cinquantenaire de la libération des camps. Donc ils voulaient faire quelque chose de marquant, d'autant plus que ces histoires de déportation, et en tout cas pour ceux qui en sont revenus, c'était des histoires familiales, mais qui, même au sein de la famille, ces survivants ne se racontaient pas beaucoup, pour des tas de raisons qu'on peut imaginer, d'autres qui sont plus difficiles pour nous à comprendre, qui ne sont pas passés par là.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stelle.
Le monde invisible.
C'est important de ce point de vue-là. C'est aussi important, pas seulement par rapport à la communauté juive, ou aux tziganes, ou aux homosexuels, ou à tous les gens qui, à l'époque, ont été déportés, mais aussi parce qu'effectivement, on vit des temps tout à fait incertains, qui rappellent par beaucoup d'aspects, d'ailleurs, les années 30, ce qui peut susciter des inquiétudes légitimes, je crois, sans être paranoïaque. Et donc c'est d'autant plus urgent, effectivement, de rappeler quelques principes humains, fondamentaux, de solidarité, de conscience, de liberté, de respect. Donc c'est plus que jamais un ouvrage, je dirais, utile. Et c'est pour ça qu'on... Voilà, il est toujours grand, il y a toujours beaucoup de pages, parce que voilà, il y a une quarantaine de témoignages, de portraits photographiques et de témoignages de ces personnes. Donc on ne pouvait pas faire bouillir ça pour le faire réduire, mais on a quand même souhaité, par cette couverture souple, et surtout par le prix modique du livre, qu'il soit aussi accessible au plus grand nombre, y compris aux écoles, c'était notre souhait premier.
Le passage du témoin, photographie d'André Goldberg, présentée à la caserne d'Ossin, Malines, jusqu'au 28 janvier. Ouvrage publié à la lettre volée, témoignage recueilli par Dominique Rosenberg, photographie André Goldberg. Avec Daniel van der Gucht, Verle van den Dahl, Zava Zewald, Dominique Rosenberg et André Goldberg. Et la voix de Rosa Ehrlich, épouse Maurice Goldstein, 1921-2013. Le passage de témoin par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Mon arrivée à Auschwitz se situe exactement le 7 avril 1944. Là, je suis rentrée au camp de Birkenau, où je suis restée jusqu'au moment de mon évacuation, le 18 janvier au matin. Je suis restée à Birkenau tout le temps. Bien sûr, il fallait travailler. Après la quarantaine, après la mise en quarantaine, on nous a distribués dans les commandos et j'ai été immédiatement mise au travail à l'extérieur. Ils appelaient ça « Außenkommando », c'est-à-dire les commandos extérieurs. Les commandos extérieurs étaient très durs parce que c'était dehors par tous les temps. Il ne faisait pas très chaud, il faisait froid encore à ce moment-là. Il était encore tombé de la neige. Nous étions d'ailleurs dehors par tous les temps, sans pouvoir nous abriter. Le travail était beaucoup plus dur parce qu'il fallait chaque fois soit retourner la terre, soit transporter des poids très lourds, des briques, des cailloux, porter des rails, pousser des wagonnets. Et quand réellement il n'y avait rien à faire, eh bien, ils nous faisaient faire un profond trou, creuser un trou à la pelle et puis le reboucher et puis en creuser un autre plus loin. Et il faut vous dire que c'était un travail pénible, dur. Parce qu'en plus, nous n'avions pas tellement de calories, nous n'avions pas tellement à manger. Nous partions le matin ayant bu un peu de ce liquide, sans manger, sans rien. À 11h30, on s'arrêtait pour une petite demi-heure pour avoir notre louche de nourriture. C'était un mélange de soupe avec... Tout dépendait des convois qui arrivaient. Quand le convoi des Hongrois est arrivé, on avait beaucoup de paprika dans la soupe parce qu'ils mettaient les aliments que les Hongrois avaient amenés en grande quantité. Il y avait beaucoup de Hongrois qui sont arrivés à cette époque-là également. Et en fonction des convois, on retrouvait des choses différentes dans les soupes. Et on recevait donc cette louche de soupe et puis hop, on retournait au travail. À 5h30, on arrêtait. Il faut vous dire aussi que le rythme au camp d'Auschwitz était un rythme rapide. Jamais nous n'avons pu marcher, c'était toujours courir, c'était toujours vite, vite, vite. D'ailleurs, le los, 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 schnell, 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 ça me reste dans les souvenirs comme quelque chose de pénible parce qu'il fallait constamment aller vite. Quand vous deviez transporter des cailloux, c'était en courant. C'était toujours à la schlag, c'était toujours vite, vite, vite. Et on s'épuise rapidement à ce rythme-là. Bon, quand on pouvait tricher, quand ils avaient le dos tourné, on s'arrêtait, on soufflait un peu. Mais encore fallait-il ne pas se laisser prendre, parce que si on se laissait prendre, on recevait des coups, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Alors, que fallait-il faire? Ou courir et se dépêcher, ou recevoir des coups. Ou essayer de ne pas se faire prendre. Ça, c'était plus difficile, surtout quand on est en plein air.
Tout à fait. Et donc, effectivement, vous voyez ici la date de l'entretien, 21 novembre 1994. Portrait photographique, 1er décembre 1994. Donc, ce sont chaque fois deux dispositifs de témoignages, mais aussi donc de partage, de passage du témoin, puisque c'est le titre symbolique du livre. Donc, ils sont passés à des endroits et à des moments différents.
Nous sommes à la caserne d'Ossin, Malines, et sur la table, l'ouvrage, intitulé « Le passage du témoin », et puis accompagné d'une photographie que vous avez prise, André Goldberg, d'une femme dont on voit le visage et les bras. Et sur un des bras, il y a des chiffres.
Tout le monde sait que quand les Juifs déportés à Auschwitz arrivaient et étaient débarqués sur le quai, ils devaient prendre une douche. Certains d'ailleurs ont pensé prendre une douche et ont été décimés par le cyclone B. Mais certains prenaient des vraies douches. Ils étaient sélectionnés pour le travail comme des esclaves. Et comme des esclaves, il fallait les marquer au fer rouge. C'était pas le fer rouge, c'était le tatouage, donc chacun avait un numéro.
Il y a celle-là, moi ça me fait penser à l'histoire de Jacques Stenberg, écrivain belge assez prolifique, dont un petit peu trop oublié peut-être déjà aujourd'hui, je sais pas, qu'on va rééditer pas mal de choses de lui, qui racontait dans son autobiographie comment il avait également échappé à la déportation par la... sympathie étonnante qu'avait éprouvé pour lui un capitaine, un commandant de camp, et qui avait tout simplement déchiré sa fiche. Et comme dans ces lieux, on n'existe que par un numéro et que par une fiche, n'ayant plus de fiches, il n'avait plus de numéro et donc il n'existait plus. Et donc c'est sa façon, la façon dont il a pu passer à travers les mailles du filet, c'est en n'ayant plus aucune existence administrative. Donc il y a des histoires tout à fait incroyables.
La caserne d'Ossin, qui se trouve en face du musée, est en fait le lieu dans lequel les Juifs ont été séquestrés en attendant d'être déportés vers Auschwitz.
À 5h30, c'était rassemblement, on rentrait de nouveau au camp, tout ça toujours vite, et en chantant. Il fallait sortir du camp en chantant et rentrer du camp en chantant. Et quand on arrivait au camp, il y avait les appels devant la porte. Il faut vous dire aussi que les appels commençaient tôt le matin. On se levait vers 4h du matin, entre 3 et 4h du matin. On nous sortait de nos pauvres chalets dans lesquels on avait si mal dormi parce qu'on était en surnombre, là aussi, entassés comme des sardines, parfois en tête bêche, parfois ça dépendait si on était toujours trop nombreux, ça, il n'y a pas de doute. Et quand le matin, vers entre 3 et 4 heures, on nous réveillait, c'était toujours à coups de bâton et à coups de cris, il fallait aller très très vite. On restait à l'appel jusqu'à 8 heures du matin. C'est vous dire qu'on était déjà épuisés avant de partir. Par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, et Dieu sait que c'est battu par les vents, Birkenau et Auschwitz. Ils ont toujours choisi les camps dans des endroits absolument terribles. Toujours battu par les vents, des terres meubles où on enfonçait avec les pieds, on perdait les chaussures, ou de mauvais pavés, de mauvais cailloux. Bref, c'était jamais une allée et un bon trottoir, c'était toujours des mauvais chemins. C'était souvent marécageux, d'ailleurs, Auschwitz est un endroit marécageux. Et pour revenir, alors l'appel, c'était pareil. Il fallait donc que tout le monde soit compté. Quand tout le monde était compté et que le compte était juste, chaque bloc devait avoir ses prisonnières à l'appel, debout en rang par 5. Les morts alignés par terre devaient être comptés aussi, on ne pouvait pas les oublier. Et quand tous les blocs étaient comptés et que le compte était juste, alors on pouvait recevoir notre miche de pain, nos 400 grammes de pain, avec un jour un tout petit bout de margarine, un jour une cuillère à café de confiture de rutabaga, et de temps à autre un bout de saucisson, c'est tout. Mais ce morceau de pain, vous vous jetiez dessus, vous le mangez tout de suite. Vous ne pouviez pas tenir, parce que vous étiez affamé.
La plupart des témoins qui sont dans le livre ont été déportés de la caserne d'Ossin. Dans le livre, il n'y a pas que des Belges. Enfin, ils étaient Belges après la guerre, tous. Ils vivaient en Belgique après la guerre. Mais beaucoup nous parlent de leur histoire de déportation, de Rhodes, de France, de Pologne, de Hongrie. Et c'est ça un peu qu'on voulait aussi mettre en place dans ce livre, c'est de montrer que c'est une histoire européenne, c'est pas une histoire belge, c'est pas que la caserne d'Ossin. Ici, évidemment, c'est symbolique dans ce musée en face de ce lieu de détention. Que la déportation des Juifs, c'est pas, comme pouvait le dire Le Pen, un détail de l'histoire de la guerre, même si 6 millions de Juifs, c'est beaucoup. C'est par rapport aux 50 millions de morts ou 60 millions de morts, ce n'est qu'un dixième, mais c'est déjà énorme pour une population qui n'est pas militaire. Ce sont des familles, des vieux, des enfants, des jeunes, des femmes qui n'ont comme seul tort que d'être nés juifs. Bon, il y a aussi, les juifs n'étaient pas les seuls persécutés. Il y avait les tziganes, il y avait les homosexuels, les communistes, les prêtres. Enfin bon, c'est certain que les juifs n'étaient pas le seul. Mais il y a quand même une politique jusqu'à la toute fin, une politique de génocide. Les juifs, même quand il y avait la débâcle, ils ont continué en 1944 à déporter 600 000 Hongrois, alors que c'était pratiquement la fin de la guerre. C'est dans l'ADN du nazisme, la destruction du peuple juif.
Le 8 novembre 44 exactement, alors qu'une bonne partie du camp avait déjà été évacuée, les tziganes avaient déjà été gazés, étaient morts, on nous a rassemblés peut-être plusieurs blocs ensemble. Je ne peux pas me souvenir combien de femmes ont été rassemblées. Mais un matin, on nous a fait sortir des blocs. On nous a mis en groupe à la place d'appel. Et on nous a menés quelque part où je ne savais pas du tout où nous allions. J'ai trouvé ça bizarre. Nous n'avions jamais pris ce chemin-là. Nous n'avions jamais pris cette route-là. Je me suis demandé, mais que se passe-t-il? Que nous arrive-t-il? Ben, vous avez beau vous demander, personne ne vous dira où vous allez. D'ailleurs, ils avaient toujours la crainte des soulèvements. On n'était pas capable de se soulever. On était devenus des zombies. Ce qui fait que je ne sais pas comment nous aurions mis. Mais la crainte des... que nous fassions quelque chose que nous n'aurions pas dû faire, ou je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas expliquer pourquoi jamais ils ne nous disaient ce qui se passait. D'ailleurs, quand ils faisaient des sélections, nous savions très bien qu'une fois, ils opéraient d'une certaine manière, une fois d'une autre, ou bien c'était les numéros qui étaient inscrits qui devaient rester vivantes, une fois c'était les numéros qui n'étaient pas inscrits, qui restaient vivantes, etc. Ils n'opéraient jamais de la même façon pour éviter les paniques. Ça, en fait. Et on comprend très bien, puisque tout le monde au camp savait que nous passerions à peu près toutes à la chambre à gaz. Ce n'était un secret pour personne. Tout le monde le savait. Et je dirais même plus, je vais d'ailleurs vous expliquer comment je le sais, puisque c'est quelque chose qui m'a préoccupée à un moment donné. Donc, nous voilà sur cette route, nous marchons, et ça me paraît un chemin tellement long. Et nous entrons dans une sauna que je ne connais pas. La sauna est un endroit de désinfection où on vous désinfecte, on se déshabille complètement, on vous désinfecte, on enlève les vêtements qu'on passe dans les autoclaves, on vous rase, on vous passe à la douche, et puis vous attendez de l'autre côté de la sauna, à l'autre bout, vous attendez que les vêtements rentrent. Sortent plutôt des autoclaves et vous soient distribués. Et ces opérations-là prennent en général toute une nuit. Et nous arrivons là dans cette sauna que je n'avais jamais vue, que je ne connaissais pas. Je dois dire que là, j'ai commencé à paniquer et je n'étais pas la seule. Et nous avons réellement compris que c'était une période de notre vie qui allait se terminer là. Je me suis dit, tiens, moi je suis ici, à l'endroit où il y a les chambres à gaz. C'est pas possible autrement, ça doit être l'endroit où on gaze les gens. Parce que d'une part, on nous avait fait marcher très loin. D'autre part, j'étais dans une sauna que je ne connaissais pas. Je me dis, maintenant, c'est probablement notre dernière heure. Qui est arrivé. Et je suis en train de me poser cette question-là. On nous demande, les Aufseherin, c'est-à-dire les femmes SS, nous demandent de nous déshabiller. À ce moment-là, entre un SS bien habillé, un bel homme, se met à un des endroits de la pièce et nous passons nus devant lui. Et avec sa petite baguette, il fait ça. Gauche, droite, gauche, droite. Et je passe à gauche.
Dominique Rosenberg.
Ils se sont tous reconstruits après, qu'ils ont recommencé une vie après. Ils se sont remariés, ils ont entrepris des études. Enfin, il y a beaucoup de force. Voilà, vraiment beaucoup de force, le point commun. J'ai pas senti d'envie de se venger, je n'ai pas senti de ressentiment.
André Goldberg.
Il y avait beaucoup de pauvreté dans la communauté juive, quoi qu'on on le pense. Et donc, il y en a un qui me disait, j'avais tellement l'habitude de peu manger que finalement, de pas beaucoup manger dans les camps, c'était pas trop différent de ce que je vivais. Donc finalement, il a pu résister grâce au fait qu'il avait l'habitude de ne pas manger. Mais quelqu'un qui vivait dans l'opulence, les bourgeois n'ont pas résisté. Parce que, voilà, même il y a des histoires où on raconte des colosses qui musclés, au bout de 2-3 semaines, ils ne tiennent pas avec ce régime et ils meurent tout de suite. Donc il fallait déjà presque être prédisposé à résister à ce genre de régime.
C'est particulier parce que je n'étais pas là comme une sociologue qui vient interroger, ni comme une auteure, ni quoi que ce soit. J'étais là plutôt comme une petite fille qui venait interroger des grands-parents. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je me suis sentie et c'est un petit peu comme ça qu'ils m'ont traitée aussi.
Témoin de témoin.
Un petit peu, oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a le fait que, bon, dans ma famille, on a parlé de ça aussi, hein. Toute une partie de ma famille a disparu dans les camps. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps, avant même de faire des études de sociologie ou de rencontrer André, qui est quand même l'initiateur de ce projet en tant que photographe. C'est pour ça que le rapport était particulier. C'est un petit peu comme si je l'ai interrogé ses grands-oncles, ses grandes-tantes et ce grand-père que je n'ai jamais connu. Un petit peu, voilà. Il y a un peu de ça quand même.
Ça, je l'ignorais, je ne connaissais pas cette sauna, je ne savais pas où j'étais. Et je vois cette pièce avec des pommes d'arrosoir, je lève la tête et je dis « Ah, ça c'est la chambre à gaz !» Donc, je savais, nous savions au camp qu'il y avait des pommes d'arrosoir factices qui pouvaient faire croire qu'on allait prendre des douches et en réalité, on vous gazait. Je ne connaissais pas le processus. Je ne savais pas que c'était du cyclone B. Je ne savais pas par quel processus. Mais je m'étais imaginé, puisqu'on parlait de pommes d'arrosoir, que c'était par ces pommes d'arrosoir que sortait le gaz. C'est vous dire à quel point nous étions informés, mais tout de même pas totalement. Parce qu'il y avait quand même... peut-être que d'autres étaient informés mieux que moi, mais toujours est-il que moi je n'en savais pas davantage, mais on savait qu'on mourrait par le gaz. Il y avait des chambres à gaz, tout le monde le savait. D'ailleurs, la SS en faisait une boutade. Vous allez sortir les pieds par la cheminée, là-bas. On le savait. C'était un secret pour personne, vous savez. Nous le savions tous, d'ailleurs, quand il y avait une sélection ou quand on disait « la gauche perd », c'est-à-dire tout le monde enfermé dans les blocs, on se disait « ça y est, ça va être une sélection, mais quel bloc cette fois-ci? Qui va y passer cette fois-ci ?» Donc, nous le savions. Alors là, avec les pommes d'arrosoir, je lève le nez, je dis « ah, c'est par ici que ça va arriver ». Et en fait, non, parce qu'en réfléchissant bien, il y avait de l'eau qui tombait de ces pommes d'arrosoir. Et puis, par terre, c'est humide. Et puis je vois des tas de fenêtres là tout autour. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas ici. Nous savions que c'était dans des pièces hermétiques. Puis pour que le gaz ne s'échappe pas, il fallait que les pièces soient hermétiques de toute manière. C'était logique. Je dis mais qu'est-ce qu'on va faire de nous qu'est-ce qu'on attend en fait? Et je vois, il y a une porte là qui ferme cette pièce de douche en fait. Et enfin, c'était mouillé par terre. Nous étions sur des clayettes en bois. Et les clayettes étaient encore mouillées. Elle dit donc, les autres ont été douchés probablement, mais où sont-elles et donc les autres sont complètement séparés de nous. D'ailleurs, je vous dis, on ne se faisait pas d'illusions. Et je vois la porte fermée, vers laquelle je me dirige, toujours toute nue, ne l'oublions pas. Nous sommes toutes nues, toutes mes camarades, comme moi. Et je vais pousser cette porte. Cette porte est maintenue par un prisonnier à vêtements rayés qui tient cette porte avec les deux mains, comme les deux mains bien larges ouvertes pour qu'on n'entre pas de l'autre côté, pour que nous n'entrions pas de l'autre côté. Donc, nous ne pouvions pas aller de l'autre côté. À ce moment-là, je me suis dit, si on nous tient isolés des autres, c'est que dès que les autres seront sortis, on s'occupera de nous et nous, on nous enverra à la chambre à gaz. Oh, j'ai fait ni une ni deux. J'ai attrapé mes camarades qui étaient derrière moi et qui, je crois, n'avaient pas remarqué que j'avais été vers cette porte. Parce qu'elle priait, elle pleurait, mais elle n'avait pas cette idée de lutte. Elle n'avait peut-être pas cette idée, elles étaient fatalistes. Et puis, comment voulez-vous faire? Puis moi, je me suis dit, mourir comme ça, non, je préfère une balle de revolver, je préfère n'importe quoi, mais pas le gaz. Nous savions que parfois, il n'y en avait pas assez. Nous connaissions nous-mêmes quelques détails dans le camp. Et que quand il n'y en avait pas assez, on mettait plus longtemps à mourir. Et quand je vois que cette porte est tenue par un seul homme, j'entraîne une partie des femmes, je n'avais pas besoin de parler, j'entraîne une partie des femmes, je vais les chercher, et je fais ni une ni deux, nous poussons de toutes nos forces cette porte, qui entre-temps avait été maintenue par d'autres prisonnier. Donc plus un seul, puisqu'il avait remarqué qu'on avait déjà essayé de pousser la porte, il y en avait déjà plusieurs, donc il fallait la force de toutes les camarades derrière moi. Moi étant la première, je file droit devant moi.
Je cours. Je sais pas où je cours. Et quand les femmes s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose d'anormal, on se met à crier. Elles galopent, elles courent dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles rattrapent celles qui sont derrière moi. Moi, je suis déjà en avant. Et qu'est-ce que je vois au bout? Celles qui venaient d'être douchées. Mais elles venaient effectivement d'être douchées et elles attendaient déjà leurs vêtements de l'autre côté, dans la partie propre de la sauna, du bâtiment. Et aussi toutes nues. Je vous ai dit que ce processus prenait à peu près toute une nuit ou toute une journée. Ça dépendait, mais ça durait très longtemps parce que mettre tous ces vêtements et tant de femmes à habiller, à déshabiller, etc. Ça peut, je vous dis, c'est un processus qui prenait toute une nuit ou toute une journée. Ici, ça a pris à peu près toute une journée parce que c'est tôt le matin qu'on nous a appelés. Et je remarque que les Aufseherinnen, que les femmes SS, pour voir celles qui n'avaient pas été douchées, enfin celles qui venaient de se mélanger aux autres, celles qui avaient fui, celles qui devaient être gazées, se mélangent aux autres, pour voir celles qu'elles vont rattraper, elles tâtent les cheveux pour voir si les cheveux sont secs ou mouillés. Et celles qui ont les cheveux secs, évidemment, ce sont celles qui viennent de s'échapper. Alors bon, elles rattrapent et quand je vois ça, ben, j'ai fait ni une ni deux, vous imaginez ce que j'ai fait. J'ai uriné dans ma main, je me suis mouillé les cheveux. Mais rapidement, il fallait donc avoir ce réflexe immédiat. Alors je cherche, j'ai mouillé donc mes cheveux, je cherche à m'insérer au milieu de mes camarades, mais imaginez-vous que là commence la lutte, la vraie lutte. Elles sont toutes nues, mais elles ne veulent pas me laisser mettre entre elles. Elles se rendent compte, elles, que moi je cherche à ne pas me faire prendre, à essayer de me mettre, et je calcule immédiatement que je ne dois pas me mettre entre deux trop minces ou entre deux trop grosses, parce que sinon la différence sera trop grande. Et alors commence une réelle lutte. Et j'entends au même moment une des Aufseherinnen qui dit, une des femmes SS, « Oh, il en manque, en allemand, il en manque une trentaine. » Et qu'est-ce qu'on fait? On recommence la sélection une deuxième fois. Et alors on repasse une à une. Et comme je vous disais que ma lutte était âpre, c'est normal. On savait très bien ce qui se passait. Il ne fallait pas se laisser prendre. Alors j'essayais de m'insérer, mais elle ne voulait pas. Et puis, vous savez, à force d'essayer, il fallait avancer. Je suis arrivée presque dans le dernier, tout dernier groupe, peut-être les 20 dernières. Et à ce moment-là, le compte y était déjà. Et je suis passée du bon côté, puisqu'elles avaient déjà récupéré la trentaine. Je vous dis, j'étais à la fin. Et comme elles avaient déjà retrouvé le nombre, ben, je me suis retrouvée du bon côté. Et bon, peu de temps après, on a récupéré les vêtements. Je suis sortie de là, bras et jambes coupés. Je n'ai plus jamais revu les autres camarades. Elles avaient été gazées. Les chroniques d'Auschwitz l'attestent, ici. 131 femmes ont été gazées ce jour-là. C'est comme ça que je suis là.
La photographie et le récit sont indissociables dans le projet. Moi, je fais une photographie, ici, c'est du portrait classique, même très référencé, par rapport à la peinture ancienne ou par rapport au début de la photographie de Nadar, par exemple, ou des choses comme ça. J'exagère, hein, mais c'est pour situer... le type de photo, donc c'est la chambre technique, c'est en studio, c'est à la lumière artificielle, c'est du noir et blanc, c'est avec des fonds noirs, blancs, unis. Et donc, mis à part certaines images où on voit des tatouages concentrationnaires, on pourrait se dire que c'est en fait une collection de photos de personnes âgées. Et moi, je ne veux pas spécialement que dans mes photos, on perçoive tout de suite le sujet. Je veux dire, je ne veux pas être démonstratif. Et donc, pour ne pas être démonstratif, alors il faut que les images, surtout pour un thème aussi fort, je veux dire, les images ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes, parce que les images servent juste à montrer l'image de la personne, qu'elle est encore vivante, qu'elle est là. Elle témoigne par sa présence. Maintenant, il faut qu'elle nous raconte aussi ce qu'elle a vécu, qu'elle témoigne par son récit. Le récit de son histoire personnelle. Donc, quand on a pris les premiers contacts, Dominique et moi, avec les témoins, on était ensemble pour expliquer notre projet. Et effectivement, après, on a pris chacun un rendez-vous, l'un pour la prise de vue et l'autre pour le témoignage. Et pour la prise de vue, je suis seul avec le témoin. Et pour le témoignage, Dominique est seul avec le témoin. Mais le premier contact, c'est expliquer que le projet est indissociable entre la photo et le témoignage.
Depuis que nous avons fait ce livre, je ne l'ai pas lu. Et je ne pense pas que je l'ai jamais lu. Donc, voilà, parce que j'ai passé un an à écouter, réécouter, retranscrire. Il faut savoir qu'après avoir retranscrit, j'ai été revoir les témoins pour qu'ils relisent ce que j'avais écrit, parce qu'il y avait eu des coupes quand même. Voilà, donc comment il se lit, je dirais peut-être à dose homéopathique.
Moi, je suis très directionnel dans ma manière de photographier les gens.
C'est un portrait noir et blanc. C'est un fond noir, elle a une robe noire. Elle a le regard vers le bas. Elle a les bras croisés, mais le bras qui est au-dessus, c'est celui qui porte son numéro, son matricule au camp. Voilà, j'ai connu cette dame, donc je risque peut-être de mettre mon interprétation de ce que je connais d'elle. Voilà, mais je trouve que ce portrait la représente bien. Ça représente bien la personne qu'elle était, la personne que j'ai rencontrée et que j'ai vue encore après. C'est un très très beau portrait, mais c'était une très très belle femme aussi. Et une belle âme aussi.
Mais déjà, le fait qu'ils soient là, je trouve que c'est déjà extraordinaire. Le fait qu'ils aient accepté de participer à un projet, parce que bon, c'est vrai que rétrospectivement, on voit ça comme une somme. On se dit, waouh, c'est beau, ce livre, il est épais, il y a beaucoup de textes, les photos, bon, en général, sont appréciées. Et j'ai beaucoup de compliments sur la qualité de mon travail. Mais à l'époque, ce n'est pas une commande. Donc, à l'époque, pour ces gens-là, on sortait de nulle part.
Eh bien, voilà, nous voilà sur les routes. Et commence alors ce long calvaire. 3 jours et 3 nuits. Dormant la nuit à la Belle Étoile, avec des camarades gelés le matin. Miraculeusement, j'ai réussi chaque fois à m'insérer entre des groupes pour garder un peu de chaleur et pour avoir un peu chaud. Miraculeusement, je vais passer sur les détails parce que sinon nous n'en finirions plus. Miraculeusement, j'ai pu, pendant que tout le monde se reposait, parce que même les SS avaient besoin de se reposer aussi dans la journée, et ils devaient manger. Alors ils se reposaient, mais comme j'étais la dernière de la colonne, de toute cette longue file, je me suis retrouvée à un moment donné la dernière, ce qui était fatal, puisque j'avais à peine la force de me pousser moi-même. Et avec des sabots, vous pensez combien je tombais, combien je glissais. Et il fallait surtout pas tomber, parce que celle qui tombait était abattue immédiatement. Il fallait surtout pas que je perde mes sabots. Enfin, c'est miraculeux que j'ai pu tenir sur les deux pieds. Et pendant que tout le monde se reposait pour leur pas, soi-disant leur pas de midi, ou en tout cas pour que les SS puissent, eux, s'asseoir et manger, il fallait donc que toute la colonne s'arrête. Moi, j'avançais pour rattraper le retard. Et au troisième jour, on nous amenait à un train à wagon découvert, un train à charbon, wagon découvert, et on nous a entassés à peut-être plus de 100 dans chaque wagon découvert. Il faut vous dire que jusque-là, je n'avais pas mangé, je n'avais pas bu. Personne d'ailleurs, sauf celle qui avait eu la possibilité de garder avec elle le pain, ou en tout cas celle qui avait eu la possibilité, je ne sais pas moi, de trouver du pain, je ne sais pas. Il faut vous dire qu'après 3 jours, des 60 000, il ne devait plus en rester beaucoup, surtout que nous entendions tout le temps tirer. Dès que quelqu'un faisait mine de se baisser ou de ralentir, était tué immédiatement. Notre colonne était bordée de Wehrmacht et de SS, espacée peut-être de 20 mètres. Nous avions toute cette colonne qui était gardée tout le temps. Bon, certaines ont pu s'enfuir,
pendant l'obscurité, ou en tout cas ont essayé de rester sur place. Moi, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce que j'étais dans un état délabrement tel. Puis nous étions sur le territoire polonais, en Pologne. Moi, je ne peux pas parler polonais, je ne connaissais pas le polonais. Un petit mot, un mot ou deux, je connaissais l'allemand, mais en plus, j'étais tatouée. Et qui me dit que les Polonais ne m'auraient pas dénoncée? Comment le savoir? Alors, moi, je n'ai jamais osé rester là où j'étais. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, la dernière nuit, j'avais réussi à m'introduire dans une grange. Et je me suis faufilée dans une grange avec tout un groupe de femmes. Et le matin, il faut vous dire qu'à ce moment-là, mes membres étaient raidis. Chaque mouvement que je faisais, c'était un cri, parce que je ne pouvais plus récupérer les mouvements de mes membres, tellement ils étaient raidis par la sous-alimentation et la fatigue. Vous savez, après la guerre, j'ai appris que les sportifs avaient ce genre de raideur quand ils faisaient un trop gros effort. Et là, le lendemain matin, quand on nous a enjoignés de nous lever et de reprendre la marche, je me suis dit, mais si je restais cachée dans le foin? Mais les SS avaient des chiens. Alors, me laisser déchiqueter alors que j'avais l'impression que nous étions près de la fin. Près de la fin de cette guerre. À la fin de cette période atroce. Je me dis, c'est pas maintenant que je vais mourir. Alors que j'ai échappé au typhus exanthématique, à la chambre à gaz d'abord, à la première sélection en arrivant, à toutes les sélections qui ont eu lieu dans le camp, au typhus exanthématique, et à la sélection faite par Mengele le 8 novembre 1944. Et je dois dire que j'avais juste le poids de mon squelette, et j'ai été sélectionnée pour la chambre à gaz avec 136 camarades de captivité, non, 131 camarades. J'ai été sélectionnée le 8 novembre, là, les chroniques d'Auschwitz l'attestent. C'est comme ça que je l'ai retrouvée.
César Vazewald, la conservatrice du Musée juif de Belgique à Bruxelles, qui m'a sollicité en 2016, elle m'a proposé de réexposer ses photos au musée de la caserne d'Ossin.
De passeuse entre différentes personnes, entre d'abord les deux personnes qui ont pensé réaliser ce travail, André et Dominique, entre le musée juif de Belgique et le public, et entre moi-même, peut-être mon histoire, et ces photos. Ou le message que veut faire passer ces photos.
Il y a 22 ans, on était encore très proche, quelque part, des événements. Même s'ils étaient 50 ans après, c'était encore dans les mémoires, très vives. Et aujourd'hui, 22 ans après, la jeunesse, même si on leur en parle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent dans ce musée, est quand même déconnecté un peu de ces événements-là. C'est quand même le siècle passé, c'est quand même loin pour eux. Alors que pour la jeunesse de l'époque 1995, c'était encore finalement pas si loin que ça. C'était loin, mais c'était encore dans les mémoires. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui est encore plus, par rapport à ces événements-là, qui est beaucoup plus difficile pour les enseignants, pour les historiens, pour tous ceux qui veulent faire une médiation autour de ça, parce que c'est, on a l'impression que c'est tellement loin que ça ne sert plus à rien d'en parler, alors qu'il faut continuer à en parler, même si, par ailleurs, dans le monde, on est tous témoins, tous les jours, d'atrocités. Voilà, qui dans, un peu dans toutes les parties du monde. Mais rien ne remplace. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il y a une atrocité, il ne faut plus parler de celle qui s'est passée avant. Je veux dire, ça, malheureusement, ça ne fait que s'accumuler et on ne retient pas les leçons de l'histoire.
Rosa Ehrlich, vous l'avez connue?
Non. J'avais donc échappé à cette sélection. J'avais réussi à m'enfuir, à m'échapper. Et je me trouvais là sur ces routes. J'allais essayer de m'enfuir et de me faire abattre pendant ma fuite. Non, ça, c'était pas possible. Tant que j'étais avec la foule, il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. En tout cas, tant que je pouvais tenir le coup, je tenais. C'est ça, la marche de la mort. C'est que je crois que nous sommes partis 60 000 environ. Il restait encore 60 000 Häftlinge, donc prisonniers. Je crois que On en a compté après à peu près 5000.
C'était dans les années 90. Il racontait à mon micro, sans qu'aucune question ne soit posée, il témoignait. Comment faut-il lire ce livre, Zaba Zewald?
Mais ce sont d'abord des visages, donc c'est d'abord de très belles photos qui évoquent que qu'une personne a existé, parce qu'ils sont quasi toutes ces personnes sont quasi décédées. Et puis il y a toutes ces histoires qui sont racontées. Chaque histoire, chaque personne est accompagnée de son histoire, l'histoire qu'elle a voulu raconter. Et ça, c'est quand même des histoires, chaque fois, qui dépassent la fiction. C'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. C'est extrêmement fort, c'est terrible. C'est des histoires terribles, c'est des histoires aussi très, très touchantes. Et chaque histoire est particulière, chaque personne est particulière, chaque visage, chaque photo est aussi particulière, même si, bon, elles ont toutes été prises en studio, donc il y a une lumière chaque fois quasi identique, mais l'expression, la pose, le visage est chaque fois différent.
Nous avons marché jusqu'à ces wagons, et là on nous a entassés dans ces wagons, et là on nous a encore traînés à travers toute l'Allemagne jusqu'à Bergen-Belsen, wagons découverts, entassés, sans boire, sans manger, encore 3 autres jours. Dans un être. Là, j'ai cru perdre la raison. J'ai cru perdre la raison parce que je ne savais plus où j'étais. Et puis je me rendais bien compte que si je me laissais aller, si je me laissais choir, j'étais écrasée par le poids des autres. Comme toutes celles qui étaient autour de moi, écrasées déjà, et qui n'avaient pas eu la force de rester debout. Il fallait rester debout là-dedans. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que si vous vous asseyiez, c'était sur une camarade. Et finalement, les camarades devenaient des cadavres, parce qu'elles avaient aussi peu mangé que moi, pour la plupart. Elles étaient dans le même état d'affaiblissement que moi, dans le même état de délabrement que moi. Il n'y avait pas de raison que ça ne m'arrive pas. Et là, j'ai à un moment donné cru perdre la raison. Et je me suis rattrapée en me disant, mais non, tu n'entends pas parler le français, c'est pas possible. Il y avait effectivement toute une série de nationalités dont je n'arrivais pas à capter et à comprendre la langue, parce que c'était pénible, sous-alimentée, plus d'alimentation, et le froid aidant, le gel aidant, c'est la neige nous tombait dessus. J'avais là le nez gelé, les genoux gelés, et les doigts ont recommencé à geler, les pieds gelés, quasi sans bouger pendant 3 jours et 3 nuits, de nouveau, à travers toute l'Allemagne jusqu'à Bergen-Belsen. C'est ce qu'on appelle la marche de la mort. Et quand je suis arrivée à Bergen-Belsen, j'ignorais d'ailleurs, ce que je savais, c'est qu'on nous arrêtait à Ravensbrück, je crois qu'on nous a arrêtés à Ravensbrück, à Großrosen, on a déposé une partie des prisonniers, mais tous ne pouvaient pas entrer dans ces camps qui n'étaient pas prévus pour un tel nombre. Ce qui fait que, bon, on en a lâché une partie chaque fois, et moi j'ai été amenée jusqu'à Bergen-Belsen, c'est-à-dire la toute dernière limite. Il n'y avait plus moyen d'aller ailleurs. Les Anglais arrivaient de l'autre côté, les Américains au sud et les Russes au nord. Il n'y avait plus moyen pour les Allemands d'aller nulle part ailleurs. Et quand je suis arrivée à Bergen-Belsen, c'était la nuit de nouveau. On nous a jetés dans un bloc. Je ne savais pas encore où j'étais. Je ne savais pas ce que c'était, ni quel camp, ni dans quel camp je me trouvais. Le lendemain, on nous a distribués dans un bloc, toujours sans manger, toujours sans boire. J'ai heureusement eu un peu de neige en cours de route, mais honnêtement, je n'avais plus qu'un seul but, c'était de tenir. Et je ne pensais plus à rien d'autre que de tenir. Je me disais, mais nous sommes presque à la fin. Je savais que la Belgique était libérée, je savais que la France était libérée, je savais que la Hollande était libérée. Nous étions janvier 24, puisque nous sommes arrivés le 24 janvier au matin à Bergen-Belsen.
En janvier, je me disais, ça va être fini, c'est pas possible, ça peut plus durer longtemps. Ça a encore duré beaucoup trop longtemps pour nous après, parce que ça a encore été beaucoup bien pire encore qu'à Auschwitz, parce qu'il y avait une telle désorganisation à Bergen-Belsen que le calvaire a seulement commencé là. Au mois de février 1945, j'allais avoir 24 ans.
Veerle van den Dalen, et donc je suis directrice générale adjointe et conservatrice ici à la caserne de Sang. Et donc voilà, c'est pour nous vraiment l'expo qu'on a maintenant avec les témoins, c'est quelque chose qui entre vraiment dans notre mission principale, parce que c'est d'ici que 25 500 personnes ont été déportées. Et comme on voit quand on entre le musée, il y a un mur de portraits qui se trouve au musée de niveau moins 1 jusqu'au troisième étage, avec tous les portraits des gens qui ont été déportés d'ici, ou si on manque une photo, il y a une icône d'une personne. Et donc voilà, montrer les visages des victimes, c'est quelque chose de très très important pour nous, pour commémorer, pour éduquer. Et donc voilà, la proposition d'avoir ces portraits qui ont été pris 50 ans après les événements, de les pouvoir montrer ici dans notre musée, c'était quelque chose symboliquement de très très fort.
C'est une exposition que vous avez produite et qui se tient à Malines, à la caserne d'Ossin, jusqu'au 28 janvier.
Jusqu'au 28 janvier, c'est exact. Le 28 janvier, c'est un dimanche, donc on clôture l'exposition avec deux visites guidées et un drink, une visite guidée en français, une visite guidée en néerlandais. C'est encore le moment pour aller voir vraiment ces 37 portraits en grandeur réelle, parce que dans le livre, ce n'est pas les dimensions des photos, et qui dégage quand même chaque fois une très grande présence dans l'espace. C'est autre chose qu'un livre, hein, c'est toujours autre chose.
Et pourquoi caserne d'Ossin et pourquoi Malines, lieu de départ de la déportation en train?
Plus de 90% des Juifs registrés en Belgique se trouvaient à Anvers et à Bruxelles. Et donc, même s'il n'y a pas une communauté juive nombreuse à Malines, par hasard, se trouve au mi-chemin entre Anvers et Bruxelles. Et donc, voilà, c'est un choix pratique, pragmatique, je dirais, surtout avec le chemin de fer qui passait à côté de la caserne à l'époque, que ça se ne voit plus maintenant, mais à l'époque c'était comme ça.
Dans mon propre bloc, je m'éveillais le matin avec le bras d'un cadavre, la jambe d'un cadavre. Tous les matins, il y avait des cadavres. Et nous étions arrivés à un tel point de dénuement, à un tel point de misérabilisme, que nous n'avions plus la force de sortir les cadavres de nos blocs. Parce qu'en les sortant du bloc, il nous était impossible de franchir la marche qu'il fallait enjamber pour rentrer dans le bloc. C'était au-delà de nos possibilités physiques. Il n'y avait plus personne capable d'aller chercher le grand cube de soupe.
Je pense qu'une œuvre accrochée dans le cadre d'une exposition où on va voir des choses qui sont dans un espace et qu'on partage ça aussi avec des gens, même si on ne le partage pas, même si on ne parle pas aux gens, le fait qu'on est dans un lieu public, je pense que c'est tout à fait autre chose que de regarder un livre. Même si ça reste un très très beau livre et que c'est bien que ce livre ait été réédité.
Les premiers venus étaient ceux qui avaient reçu un Arbeitseinsatzbefehl, donc une convocation pour le travail obligatoire, qui disait qu'il devait venir ici à Malines pour se registrer pour ce travail, et des gens qui ont été arrêtés pendant des rafles. Et puis, plus tard, c'est surtout ces gens qui ont été découverts, qui se cachaient à Bruxelles, à Anvers, partout dans le pays, qui ont été arrêtés et qui sont amenés vers la caserne d'Ossin. Et donc voilà, c'est entre 42 et 44, l'été 42 et l'été 44, que tous ces transports sont partis d'ici vers surtout le camp d'Auschwitz.
C'est dur de voir que ces néo-nazis lèvent la tête, et c'est dur de voir qu'ils nient et de dire que c'est pas vrai. D'ailleurs, on se demande pourquoi Mengele s'est caché tant d'années s'il n'a rien fait.
Il y a aussi pas mal d'éducation pour les adultes. Comme cela, on a un programme Holocauste pour la police. Ça s'appelle en néerlandais Holocaust, Politie en Mensenrechte, donc l'Holocauste, la police et les droits de l'homme. Et on a énormément de gens qui travaillent dans les forces de la police, qui viennent visiter le musée avec le but d'en apprendre quelque chose pour leur activité aujourd'hui. Quoi faire, dans quelle situation, ces policiers, ces agents de police, vraiment on le dialogue avec l'histoire ici pour apprendre et pour réfléchir de comment agir aujourd'hui et demain.
Le passage du témoin, photographie d'André Goldberg, présentée à la caserne d'Ossin, Malines, jusqu'au 28 janvier. Ouvrage publié à la lettre volée, témoignage recueilli par Dominique Rosenberg, photographie André Goldberg. Avec Daniel van der Gucht, Verle van den Dahl, Zava Zewald, Dominique Rosenberg et André Goldberg. Et la voix de Rosa Ehrlich, épouse Maurice Goldstein, 1921-2013. Le passage de témoin par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.